La première,
11h midi le samedi.
Bientôt à table, Sophie Muntz et Carlo De Pascal.
Et non, ce sera sans Carlo. Aujourd'hui, il a débouché le Genépi pour l'apéro. Il nous rejoindra la semaine prochaine. Mais au menu de notre belle émission en direct depuis la foire du livre des arts et de l'art culinaire, de beaux feuillets et de l'esthétique de comptoir et un délicieux millefeuille depuis la foire du livre ce matin avec une très jolie brochette d'invités à mes côtés pour une émission confluant des arts et dont celui de la cuisine. Alexandra Swenden, bonjour.
Bonjour Sophie.
Comment allez-vous ce matin?
Merveilleusement bien.
Il y a du monde hein, déjà,
ah,
c'est chouette.
Voilà.
Hein. Bon, vous résumez, sera très difficile. Hein. Alexandra, vous êtes grande amatrice d'art, imagineuse de concepts, mêlant l'art de nourrir aux arts dits majeurs, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et vous avez une très jolie idée en cette année 2024, un spectacle multidisciplinaire entre la danse, la musique et la cuisine. Vous nous ferez découvrir ce très joli projet. L'art culinaire, le propos d'un seul en scène et sans langue de bois, bien entendu, pour ainsi interroger, questionner, débusquer les nombreuses fake news de la food. C'est le propos de ce spectacle, ça va saigner, par l'ami Eric Boschmann, l'homme multitâche avec nous ce matin. Bonjour Eric.
Le Rémi Bricat du Pinard.
On peut le dire. Alors, ni Dieu ni maître, ça on l'a déjà vu ce spectacle, L'âge de bière aussi, ça va saigner. Ça c'est pour nous parler de la malbouffe en général,
de la malbouffe, oui,
conscientiser.
Oui, plutôt, ouais. et puis se dire que c'est très, très, très compliqué d'y échapper.
Évidemment. Et on en parlera.
C'est vraiment angoissant.
Mais l'idée, c'est pas de plomber l'ambiance, c'est de.
Ah non,
c'est ça, factuel, et puis il y a des pistes de solutions, peut-être.
Oui, et puis ça reste en dessous de la ceinture. Enfin,
évidemment.
Il faut que je réveille les gens aussi.
Évidemment. Et puis, quoi de plus beau que l'art culinaire, accoudé ou bien installé au comptoir de restaurant? Pas la bonne idée, le croyez-vous? Eh ben non, justement, l'ami Michel Verlinden, venu en incognito, bonnet vissé à la tête et lunettes noires, vous convaincra certainement. C'est très tendance, la cuisine de comptoir.
Le comptoir fait un retour en force. Et je vous présente.
On va essayer de décrypter cette tendance.
Oui, absolument.
Avec quelques adresses coup
voilà,
de cœur, bien
compris,
entendu.
Voilà.
Alors, c'est Nathan Delporte à la réalisation, Stéphane Delougne à la production, Alexandra Vassen à la programmation musicale. Bientôt à table, c'est en direct depuis la foire du livre de Bruxelles. On vous y attend nombreux. L'entrée est gratuite et il y a déjà pas mal de fans en furie. Eric Boschmann, on les entend crier au loin.
Là, c'est parce qu'ils cherchent les toilettes.
Bon, voilà les amis, bientôt à table, c'est reparti jusqu'à midi.
Monsieur, et quoi, avec un rati, qu'est-ce que vous me conseillez? Monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
Pas trop doux.
Ah, si c'est doux, voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférerais un demi-doux.
Allez, on va démarrer cette heure apéritive avec l'essentiel en ce qui nous concerne ce week-end, le livre de jolis feuillets à lire, une foire dans sa vie. Cela parle cuisine, d'art culinaire et tant d'autres choses. Alexandra, je vous ai demandé de venir ce matin avec le livre qui, à votre sens, doit être absolument lu une fois dans son existence. Ça s'appelle « La cuisine de la consolation ».
Absolument. Alors moi, c'est un livre qui me touche beaucoup parce que effectivement, le sujet du visible et de l'invisible relié par l'alimentation, c'est le cœur même de mes projets. Donc la cuisine de la consolation, c'est un tour du monde,
oui,
des rituels qu'on fait pour rappeler, pour reconnecter les morts, les ancêtres. Donc finalement, on se rend compte que partout dans le monde, on a des moments privilégiés où on cuisine des plats, mm-hmm, pour essayer de retrouver les saveurs, finalement, cette reconnexion avec ceux qui sont partis. Après, voilà, moi, je trouve que la femme Stéphanie Schwarzbrod, qui a écrit le livre,
ouais,
parle du fait que cette thématique lui est venue par une histoire. Donc c'est une pièce de théâtre sacre de Lorraine de Sagazan qui parle d'une femme qui a cuisiné peu avant sa mort un nombre de raviolis énorme, ouais, qu'elle a congelé et que ses amis se réunissent régulièrement pour les manger. Voilà.
C'est ça.
Et je trouve que c'est voilà, ça, en tout cas c'était une histoire qui m'a beaucoup interrogée et qui m'interroge également par rapport à la fermentation. par rapport au vin. Alors j'ai un très bon ami qui est vigneron et sculpteur dans la Sarthe depuis des générations.
Ouais.
Et donc, de temps en temps, pour ses amis proches, il débouche des bouteilles.
Ouais.
Il a des bouteilles qui datent encore de 1750, donc avant la Révolution française.
Dingue.
Et ça interroge sur le fait, finalement, que quand on débouche ces bouteilles, qu'est-ce qu'on boit ? On boit la sueur, on boit le souffle de ses ancêtres.
On boit des vignes, en fait.
On boit des vignes, on boit l'air de cette époque.
Ouais.
Et voilà, je trouvais que ça, en tout cas, c'était
ça vous a parlé.
C'est toutes des thématiques, donc, évidemment, qui relient.
Et donc, le propos, évidemment, de ce livre, La cuisine de la consolation, c'est la cuisine, mais la cuisine avec tout ce qu'elle peut offrir intérieurement. Et c'est toute la richesse de la littérature culinaire, c'est que c'est pas seulement de la recette, évidemment. Michel Verlinden, en ce qui vous concerne, un livre qui touche au vivant aussi, pour le coup.
Voilà, au vivant et à l'invisible, c'est un livre qui s'appelle Fermentation, qui parle
bien
de
connu.
Fermentation. Donc, c'est un livre qui date d'il y a une dizaine d'années, je pense, écrit par Sandor Elix Katz.
Ouais.
Et c'est ma Bible. Je la consulte toutes les semaines pour m'enquérir de l'état de mon levain, que j'appelle Chucky. Mon levain s'appelle Chucky.
C'est mignon.
Comme ça, je pénétrerai un peu dans dans mon intimité.
Est-ce qu'il attaque ou pas ?
Non, de temps en temps, il se répand parfois un
c'est
peu.
Ça.
Ouais.
Bon.
Et
donc, ça nous plonge, ça nous donne une foule de recettes.
Oui.
Mais c'est aussi important de rappeler à nos auditeurs que faire son levain, aujourd'hui, ça prend une dimension très particulière.
Oui, absolument.
Il y a eu un retour aux sources, cette technique qu'on avait oubliée.
Pour moi, c'est une manière de ne pas être un nécrophage.
Ouais.
C'est manger du vivant, accompagner le vivant. Donc, c'est vraiment important. Moi,
D'ailleurs, si vous allez chez le boulanger, là, ce matin, vous demandez un pain fait avec un bon levain. Ça fait sens, évidemment. Éric Boschmann, vous êtes venu avec un grand classique de la littérature culinaire par un grand personnage. Ça s'appelle La cuisine paléolithique
Joseph Détaille.
J'avais oublié son prénom.
Joseph Détaille, qui est un surréaliste, qui est connu.
Poète, écrivain.
Première heure de gloire, fin des années 20. Qui se fait virer des surréalistes par Breton.
Ouais.
Ce qui est déjà un gage de qualité.
Le personnage.
Quand on se fait virer par Breton, déjà on sait qu'on a atteint.
On a high level.
Ouais, on a atteint l'immortalité. Et il sortir pour des raisons de santé juste à côté de Montpellier, une trentaine de kilomètres, dans une espèce de. Il appelle ça sa thébaïde. Et une maison où on fait du vin.
Ouais.
On fait du raisin, mais on fait aussi des fruits, des légumes, etc. Il vit en quasi-autarcie.
Ouais.
Il continue à publié, et en 1964, année exceptionnelle, il sort un bouquin qui s'appelle La cuisine paléolithique, et qui est pour moi un truc incroyable, c'est le brutalisme appliqué à la cuisine. Vous connaissez, nous connaissons Willem Hill, et pour moi...
Willem Hill, qui est donc chef en Flandre,
qui est
qu'on aime beaucoup.
Qui est Sébastien Chabal avec un cerveau et du goût. mais physiquement, voilà. Et pas confondre avec Sébastien Charal, qui a inventé le steak haché.
Ouais.
Et Willem Hill pratique la cuisine brutaliste.
C'est un retour au savoir-faire ancestraux, à la manière que nous avions de nous alimenter.
C'est revenir à la simplicité, à l'essentiel du goût.
Ouais.
Je plaisantais avec le monsieur anonyme invisible de tout à l'heure, et je lui racontais la recette du lapin à la paléolithique.
Ouais.
Ça tient en quatre lignes.
Ouais.
Parce qu'une recette, ça doit être simple. Mmh. Prenez un lapin bien dodu, un lapin de Garenne. Évidemment, tuez-le. Suspendez-le par les pattes arrière à un beau conifère. Mettez le feu à 20-25 hectares de forêt et puis mangez le lapin sans sel assis sur un caillou encore chaud. Et je trouve ça tellement drôle comme recette, tellement insensé que c'est vraiment... je trouve ça assez magnifique. Mais il y a des vraies recettes dedans, mais qui sont des recettes à l'os, en fait, simplissimes. Et quand on est dans une époque de cuisine où on nous met 32 ingrédients dans une assiette avec une réduction de légumes fermentés ajoutés yuzu, etc., on goûte plus rien.
Ça s'appelle revenir aux fondamentaux
à l'essentiel.
Et un hymne de cuisine à la cuisine de l'instinct, finalement.
Totalement.
Et ça s'appelle La cuisine paléolithique de Joseph Delteille.
C'est toujours publié.
Et je me souviens avoir lu, mais ça date déjà des Delteilleries. Oui, parce que mon père l'avait dans sa bibliothèque. J'ai un peu lâché le truc parce que j'étais peut-être pas assez mature, mais
c'est vraiment chiant à lire.
Il racontait déjà un monde plus simple, sans fioritures.
C'était un grand ami d'Henry Miller et de gens comme ça.
Exactement. Au niveau de votre actualité, il y a évidemment ce spectacle, Éric Boschmann, mais il y a aussi une activité de vigneron.
Je savais toute ma vie.
Et là, je veux tout savoir. Ça s'appelle le domaine
De Montjumont, oui.
On est où exactement ?
On est à Civry, Civry-Rance, dans la Botte du Hainaut, que l'on voudrait appeler d'ailleurs Botanie, et de moins en moins Botte du Hainaut.
Oui, c'est vrai.
C'est joli, Botanie.
C'est très joli.
Et on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est mignon.
Ouais.
Et j'ai une associée extraordinaire qui s'appelle Sophie Leclerc.
Elle est vigneronne,
sa famille. Elle est déjà vigneronne dans un domaine qui se trouve dans le Luberon, domaine des Les David. À Vience, à côté de Bannon. C'est Bannon des Sources, vous vous souvenez?
Oui.
Non, c'est juste à côté. Et je peux toutes les faire, je suis en forme ce matin. Et donc j'ai eu la chance de croiser Sophie. La vie, c'est parfois des coups de peau.
Ouais.
Et voilà, on s'est parlé, on s'est reniflé.
On rappelle quand même pour ceux qui auraient zappé un épisode de votre vie, vous êtes grand expert vin, sommelier, ce qui explique ça, cette rencontre, à un moment, elle a trouvé écho.
Quand j'étais jeune, j'ai fait plein de trucs, je suis maître fromager, maître sommelier, j'ai fait plein de trucs que plein de gens n'ont pas fait.
Mais quoi, l'idée a germé de créer un domaine en Belgique?
Oui, elle est particulièrement. Alors, elle a déjà une propriété un peu plus au sud, et elle a des pommes. Donc, il y avait dans mon boulot de valoriser les pommes, donc on est parti sur l'idée de faire du cidre, on est de faire un cidre... Vraiment un cidre ultra nature, donc sans levure ajoutée, sans sucre, sans gaz, sans filtration, sans eau, etc. Et les essais marchent bien. Je suis pas tout seul sur le coup là-bas parce que j'ai un acolyte. Et puis l'appétit vient en mangeant et on s'est dit mais pourquoi pas. Enfin, elle s'est dit pourquoi pas un vignoble. Et donc là, on aurait dû planter dans la semaine prochaine, et on va reporter tout d'un mois à peu près parce que les sols sont détrempés. Depuis novembre, il n'y a pas passé 10 jours sans pluie.
Oui, ça a été compliqué.
Mais
l'idée de ce domaine, c'est quoi? Un domaine en agroforesterie, comme on en entend beaucoup parler? Aux sources véritablement de la vigne.
En fait, on a pris le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a implémenté l'agroforesterie avant.
Ah, donc il n'y a pas encore les vignes.
Donc on réfléchit à tout.
D'accord.
Et l'implantation des vignes a été faite conséquemment à la notion d'agroforesterie.
D'accord.
Ça n'a jamais été fait. Donc on alterne aussi les pommiers et les vignes. On travaille qu'avec des cépages interspécifiques, multirésistants.
Donc adaptés au climat belge, mais qui se réchauffent d'ailleurs. Il y a eu une étude qui a été publiée cette semaine par le magazine Nature. Le sud de la France, l'Espagne, etc.,
c'est ce qu'ils disent.
Ça passe au rouge, tandis que chez nous, on a l'impression que c'est le nouvel Eldorado de la vigne.
Alors, on a tout ce qu'il faut. On a de l'espace, on a des sols, on a du climat. Donc, en même temps, ça va résoudre le problème communautaire puisque l'eau va monter. Donc, on va rester. On peut pas dire. Et donc, on va faire. Je pense qu'on pourra faire des grandes choses.
Ouais.
Et l'intérêt pour moi de l'interspécifique, c'est que ça va nous permettre de nous démarquer. Il faut pas oublier qu'il y a une notion économique dans le vin.
Ouais.
Et faire du chardonnay passé en barrique d'excellente qualité, moi, j'ai rien contre.
Non.
Mais je vois pas où ça mène. Tandis que de faire du souvigné, on est les seuls au monde à faire. En fait, la Belgique.
Oui, ça veut dire que on va avoir des particularismes.
Exactement.
Grâce à ces interspécifiques, ces cépages, donc, qui étaient au départ utilisés pour s'adapter à notre climat, qui n'était pas le climat idéal pour la vigne, en l'occurrence.
Mais qui fonctionne bien. Ouais. Et pas oublier, on va arriver aux 1000 hectares. Alors, tout le monde fait, waouh, 1000 hectares. Toute la France, c'est beaucoup plus, mais rien que la Champagne, c'est 33 000 hectares.
Oui, mais enfin, pour la Belgique, pour nous, c'est déjà
presque le Luxembourg.
C'est déjà
presque le Luxembourg.
Ça vous parle, ça, Alexandra Swenden et Michel Verlinden, ce projet d'agroforesterie, de vignes, là, dans le cœur de notre terroir belge?
Ah ben, tout à fait. Enfin, moi, ça fait aussi quelques années, par le collectif Soulmates, en fait, que j'ai un vrai intérêt pour la défense et la prise de conscience que le sol vivant est en train de disparaître. Donc, je pense que surtout au niveau des vignerons, on a vu les dégâts évidemment dans le Bordelais et d'autres régions. Ça me semble indispensable quand on commence un nouveau projet, et certainement en Belgique, d'avoir cette conscience-là.
On a l'énorme avantage de partir d'une feuille blanche.
Ouais.
Et donc,
avec
un peu de réflexion, on peut éviter de faire les conneries des autres. Nous, on a bossé avec des consultants et locaux et français, dont Marceau Bourdarias, au niveau de tout ce qui est agroforesterie.
Ouais.
Et on fait de l'agriculture régénérative. Enfin, on ne pense que comme ça. Implication d'animaux aussi, avec les voisins. Donc les vaches vont bouffer dans les vergers.
Enfin, un vrai projet durable, éthique, faisant sens. Et vous êtes donc à la tête de ce projet. Et on est donc au domaine de Montjumont.
Je participe à la chose.
En Botanie, voilà.
Dernier coup de bol.
Ouais.
c'est que c'est à 4 km de la maison de mes parents.
Mais non.
Où j'ai passé mon enfance. Et
moi,
c'est un coup de bol
si
monstrueux.
J'étais votre psy, je dirais que c'était inscrit. Hein.
Je pense que c'est un retour aux sources.
Ouais, il n'y a pas de hasard, on le sait bien. Il n'y a que des rencontres.
C'est un truc de fou.
Hein, c'est dingue. De fou. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Moi, je vous ai apporté un de mes vins préférés. Il est belge aussi, le domaine La Falise. Alors, pour le coup, là, c'est du chardonnay qui a été utilisé. Donc, je vous invite, Eric, à nous le déboucher. Et à faire le service. Et en ce qui nous concerne, elle va s'offrir un peu de musique avec Prince. Et juste après, on parle de très jolis projets au confluent des grands arts résolument.
Bientôt à table sur La Première.
Définitivement, on touche au sacré avec cette performance de l'artiste contemporaine Barbara Drascu, qui est pianiste contemporaine, mais aussi siffleuse, on peut le dire. Alexandra Swenden, c'est l'une des performances que l'on retrouvera dans ce projet multiculturel que vous avez imaginé, sorti de votre cerveau un petit peu déjanté, on peut le dire.
C'est vous qui le dites. Hein.
C'est un projet qui s'appelle Les Passagers, au confluent de tous les arts. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce que d'abord l'art culinaire, c'est de l'art? J'ai à moitié répondu à la question, mais je voudrais quand même avoir votre avis sur le propos.
Pour moi, ça peut être de l'art, c'est pas toujours de l'art. Je pense qu'on navigue entre l'art et l'artisanat à certains moments, en fonction de l'intention qu'on y met, du processus créatif. Et de là où on veut aller, où on a la capacité d'aller toucher les gens. Donc, oui. Pour moi, alors avec le projet des passagers, alors je me permets juste de préciser que ça s'écrit EES à la fin, qui est important. Donc, il y a vraiment cette connotation d'un mot imaginé et féminin. Donc, c'est une déambulation, c'est une performance à travers différents espaces d'une maison où on va traverser des strates artistiques qui vont de la danse contemporaine, de la musique. Il y aura les œuvres monumentales de Valérie Novello.
Ouais.
Et ce sont toutes des œuvres qui nous ramènent à notre rapport au vivant, à notre rapport à notre propre corps. Parce que finalement, quand on revient aux choses simples, manger, c'est quoi ? Manger, c'est finalement prendre des éléments du paysage extérieur qui nous entoure.
Et s'en nourrir.
Et s'en nourrir, mais c'est-à-dire le mettre au plus intime de soi, c'est-à-dire ça passe par la bouche. Et puis à un moment, en fait, ça va faire partie de notre paysage intérieur, de nos cellules, de notre histoire. Et je pense que c'est là où, pour moi, j'avais envie de faire un projet artistique qui permette aux gens de reconnecter avec cette conscience-là. Voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'automatisme, on a très peu de visibilité sur ce qu'on ingère à l'intérieur
c'est
de soi.
Certain.
Et surtout, peu de, je pense, de conscience sur comment ça nous habite.
Mais c'est une manière de se nourrir avec une foule de médiums, finalement. Hein, la nourriture, bien entendu, qui sera pour ces expériences menées par Shio Kanzaki, qui est une chef japonaise absolument extraordinaire, avec une poésie, un regard sur le monde très particulier, mais aussi tous les autres arts, les
exactement.
La musique,
donc c'est vraiment une performance collective, sensorielle, qui et donc la chef Shio Kanzaki qui a longtemps travaillé avec Mauro Colegreco, pour ceux qui connaissent Mirazur.
Il y a Eric qui dit oui, je connais.
Donc c'est Chio qui
j'ai juste Chio, pas les moyens, mais je connais.
Bon, voilà, c'est Chio qui dirigeait la brigade de Mirazur pendant longtemps.
Ouais.
Et Chio, en fait, je l'ai donc fait travailler avec tous les artistes pendant plusieurs mois. Donc chaque création culinaire de Chiho émane en fait de ce qu'elle a ressenti dans son propre corps par rapport aux différentes œuvres, donc autant plastiques que des œuvres vivantes qui l'ont entourée sur ce projet.
Mais donc si on veut bien expliquer aux auditeurs, le concept c'est on rentre dans cette maison qui est en elle-même un véritable bijou, une œuvre d'art qui a été imaginée.
C'est une maison classée qui appartenait au peintre Eugène Brourmann, à Bruxelles. Eugène Bourman qui l'a construite en 1904. Et effectivement, à l'arrière, se trouve un énorme atelier d'artistes.
Déjà là, on a le souffle coupé. Je suis là pour... Enfin, je l'ai vu et j'étais assez subjuguée. Donc, il y a un parcours, un cheminement avec une foule de petites démonstrations. Non, pas de démonstrations,
pas
le terme.
Ce seront vraiment des œuvres qui vont se déployer en fait sur une déambulation, sur un parcours en plusieurs espaces. Il y aura une partie en extérieur également. Donc voilà, tout ça est orchestré. Et en même temps, ce qu'on essaye d'aller chercher, c'est que chacun puisse vivre une expérience individuelle et collective. Collective dans le sens où on a essayé de limiter à 30 personnes par soir pour vivre quelque chose d'extrêmement intime avec soi d'abord et avec les autres.
Et tout cela se termine par l'apogée culinaire avec un repas qui prend une autre saveur aussi avec toutes les émotions qu'on aura à magasiner juste avant.
Exactement, c'est ce qu'on a voulu offrir en fait, c'est de vivre cette performance pendant 1h30 approximativement. Et ensuite, non pas de laisser les gens repartir vers leur réalité, repartir dans le monde, mais de les réunir autour d'une table où ils vont partager un repas avec les artistes, histoire de décanter en fait tout ce qu'ils ont vécu pendant la performance.
Michel Verlinden, vous êtes critique gastronomique, mais vous êtes aussi féru d'art contemporain. Ça vous parle, ça, déjà cette convergence entre les arts d'imageurs et l'art culinaire, qui est bien plus que ce qu'on peut le croire souvent.
Oui. Hein. En fait, moi, dans ma pratique quotidienne, enfin hebdomadaire, quotidienne, je travaille sur ces deux champs et je trouve que les points d'interaction sont assez rares. Donc, je bois du petit lait, j'allais dire du miel, mais on ne boit pas du miel. Je bois du petit lait en écoutant ce genre de projet, effectivement.
Éric Boschmann, alors vous allez me poser ce téléphone là.
Je note.
Vous tapotez, ça me perturbe.
Je note parce que je n'ai pas de mémoire. Dans l'état où je suis ce matin, il faut que je note absolument votre truc.
Éric, un projet comme ça vous parle, vous, l'épicurien, le gourmand?
Beaucoup, on en a parlé en attendant l'antenne. On a pas mal de points de convergence. Et moi, j'aime beaucoup la notion de visible et d'invisible. Et c'est assez marrant parce que, alors, je ne vais pas vous raconter ma vie en détail, mais j'ai commencé depuis hier à m'alimenter, pas autrement, je ne suis pas viré tout à fait vegan, je vais rester normal, mais j'ai commencé un truc, j'y prends depuis hier, un truc qui s'appelle Akkermansia musumifilia. Vous avez entendu parler de ça ?
Non, mais vous allez m'expliquer.
Un truc qui est créé par une spin-off de l'UCL et qui change notre flore intestinale.
Ah ouais ?
Qui est en fait, d'après leur théorie, c'est que nous sommes conditionnés dès la naissance par notre alimentation. Comme nous avons, moi je fais partie d'une génération où on mangeait du better food avec du jus d'orange, de la banane écrasée, etc. On a une alimentation très sucrée au départ. Et en fait, ce qu'il faut, c'est remettre tout ça en place pour réussir à absorber les sucres différemment.
C'est ça.
Et
reprogrammer
le microbiote.
Et quel est le lien ?
Le visible et l'invisible.
Ah, c'est ça.
C'est pas du Yakult, c'est pas juste de l'eau sucrée, c'est une réalité, quoi. Je veux dire, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, je trouve, de le voir dans une dimension artistique. Et je suis totalement d'accord avec votre vision de la cuisine, qui est à la fois, pour moi, de l'artisanat. On se trompe en parlant d'artiste, en parlant de cuisinier. De temps en temps, il y a des cuisiniers qui sont des artistes.
Absolument.
Et donc, on est à cheval entre deux définitions. Et c'est un peu, pour utiliser un mot de jeune, c'est un peu malaisant. Parce que où est la réalité ? Moi, quand on doit faire 500 fois la même assiette, exactement de la même manière, avec le petit point de sauce au même endroit, on n'est plus dans l'art. On est dans la reproductibilité, c'est Warhol. Mais Warhol, c'est de l'art.
Donc il faudrait des plats uniques, finalement, à vous
bien
entendre.
Sûr.
Ah oui.
Bien sûr.
Et là, on peut parler d'artistes.
Mais c'est la cuisine de la maison.
Mais c'est très valorisant d'être un artisan. Il fut un temps où tous les artistes étaient des artisans. Donc, je veux dire, après.
C'est évident. Il y a un respect énorme pour l'artisan. Il y a un savoir-faire. Il y a une touche qui est au-delà de la performance. C'est pas parce qu'on a un bracelet en cuir et trois tatouages qu'on est rock'n'roll. C'est un esprit. Et aujourd'hui, on est plus sur la forme que sur le fond. Pour moi, le fond est très intéressant. Revendiquons l'artisanat pour la cuisine.
Bon, et là, pour le coup, avec ce projet, les passagers, on va dans le fond de nous-mêmes, ce qui est une véritable expérience qui fait du bien, parce qu'en ce moment, la société ne va pas extrêmement bien, le moral n'est pas dingue non plus, donc je pense que c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie, donc il y aura plusieurs
Il y a plusieurs dates, donc 1er mai, 2 mai, 5 mai et 6 mai.
Ouais, on ne va pas tous les citer, parce qu'il y aura sans doute des bis répétites à plus tard, mais il y a peut-être un endroit où on peut trouver des infos.
ees.com.
Voilà, alors d'un art nous passons à un autre art. Un petit extrait d'abord.
Qu'est-ce qu'on bouffe mal à la maison? Les gens osent plus. Les gens osent plus. Et alors quand ils te font un chicon au gratin, ils s'excusent parce qu'ils n'ont pas fait un chicon au gratin top chef en faisant pré-chef.
Ouais, c'est vrai que ça m'arrive rarement à la cuisine, mais je vais y penser. Ça va saigner, c'est votre nouveau spectacle, un one-man show.
Ouais.
Écrit, mis en scène par vous, Eric Boschmann.
Écrit, hein, c'est un grand mot, mais...
fondu dans un esprit un peu fou, on peut le dire aussi.
Non.
On peut dire de ce spectacle, quoi, c'est une manière de parler de ce qui fait mal, c'est-à-dire la malbouffe, mais d'une manière, disons, ludique, sans culpabiliser personne, mais
tout
simplement nous mettant face à une réalité. Quoi.
Oui, il n'est pas question de culpabiliser, je ne suis pas au-delà de la norme. Il m'arrive de bouffer des trucs de merde aussi, comme tout le monde.
Bah oui.
Parfois, j'ai encore mangé du bifi il n'y a pas très très longtemps, il y a une dizaine d'années.
Ça existe encore?
C'est fait avec du chien. Et j'adore le goût du chien, en fait. Et donc, non, mais il y a un truc, c'est que je n'ai pas à être moralisateur.
Non.
Je n'ai pas à m'intituler maître du bon goût. Simplement, j'essaye de nous placer face à nos contradictions. Quand on fait tant que de se poser des questions sur l'origine des produits, etc., et quand on a des pizzas Hut Cœur dans son freezer, il y a un moment où il faut être cohérent.
Oui,
ou on a des pizzas Hut Cœur dans son freezer et on ferme sa gueule.
Ouais.
Ou on cherche l'origine des produits, mais on bouffe pas des pizzas Hut Cœur.
Attention, dans le public, il y en a qui disent déjà, oui, mais Coco, t'es gentil, mais ça date cost, hein, tout ça.
Ça coste pas si cher que ça.
Alors, racontez-nous, vous avez un avis sur ça aussi.
Je suis très très intéressé par les filières courtes et l'achat à la ferme.
Mmh.
Moi, je pense que c'est une des seules solutions pour les agriculteurs, surtout en Wallonie.
Ah, ouais.
Pour s'en sortir, c'est d'avoir des ventes directes, qu'il s'agisse de légumes, de viande, etc. etc. Et c'est la seule solution pour le consommateur de maîtriser un tout petit peu son truc, pour revenir au visible et à l'invisible. On en parlait tout à l'heure. Moi, je vois dans le spectacle, je pose des questions. Alors, c'est pas à valeur scientifique.
Non.
Je demande qui cuisine.
Vous humez l'air du temps, quoi.
Ouais, et quand je vois qu'à Bruxelles, on arrive à 40-50% des gens qui cuisinent pas.
Mmh.
Et qu'est-ce qu'ils mangent, ces gens-là? Ils mangent de la bouffe préparée par d'autres.
Ouais.
Et c'est quoi le libre arbitre si on accepte d'ingérer des choses dont on ne connaît ni la provenance, ni le travail? Je veux dire, on n'a pas de...
On n'a pas de prise.
C'est hallucinant.
Mmh.
Et on est tous à vouloir notre liberté, notre... On n'a jamais été aussi individualiste que pour l'instant, tout en étant communautariste. C'est un peu de schizophrénie. Et on veut tous bouffer bien. Il faut du bio, du nature, du ceci.
Enfin,
mais on achète des plats préparés.
Oui, mais je vous dis oui et non dans votre propos. Quand on parle de bonne bouffe et on s'adresse ici à un public, notamment à Bientôt à Table, qui est extrêmement conscientisé à ça, plutôt adhérent à ce genre de manière de manger. Mais je dirais que sur 100% d'un public, il y en a 80 qui bouffent de la merde. Ça, c'est une réalité.
Mais
donc c'est difficile d'entendre. C'est difficile d'entendre, oui, mais c'est bien d'aller dans votre petite coopérative de produits bio. On a vu que pendant le Covid, ça avait explosé, et puis ça se retasse. Hein, vous avez observé. Donc il y a un truc.
L'effet est dingue. Et là, on s'est senti culpabilisé avec les grèves des agriculteurs et tout le problème. Et on s'est dit, on va de nouveau retourner acheter dans les fermes.
Ouais.
Ça dure 3 mois, et dans 3 mois, on aura oublié.
Ouais.
Je veux dire, il y a un truc dingue. Ce qu'on met dans notre corps.
Ouais.
C'est ce qui nous constitue.
Mais c'est marrant, je suis tombée la semaine dernière sur une dame que j'ai croisée ici à la Foire du Livre et me disait, vous savez, c'est formidable vos grands discours de bien manger, qualitatif, local, c'est un coût, mais quand on est au chômage et qu'on ne sait même pas comment on va payer ses frais d'électricité, ça n'a plus d'importance.
Et
on dit quoi, ça?
Je vais vous dire un truc, ça me rappelle le petit énervé en France, là, comment il s'appelait encore, celui qui traite en prison. Du pain de qualité.
Ouais.
Alors on est d'accord, la baguette à 2,50 c'est du snobisme. Mais une baguette au levain de qualité, ça remplit mieux qu'une baguette industrielle. Ta baguette industrielle, tu la jettes. Parce qu'elle est imbouffable en fin de journée.
Ah, c'est sûr.
Ça ressemble à du polystyrène, même pas expansé. La baguette au levain, le lendemain matin, tu vas la toaster. Donc on va... Et en fait, le calcul est un mauvais calcul. C'est, on est dans l'immédiateté. On a besoin tout le temps de réponses immédiates à tout. Et quand on réfléchit un tout petit peu au niveau de la nourriture, du bœuf de qualité, ça nourrit nettement plus que du bœuf gonflé avec de l'eau. Ouais. Un légume de qualité. Et je ne dis pas bio, entendons-nous bien.
Non. Enfin,
c'est
mieux
oui,
aussi,
mais si ça pourrait être bio, voilà. Mais ce n'est pas ça, la qualité. La qualité, c'est travailler honnêtement, sincèrement. Et on l'a dans tout, dans le vin, dans le... c'est une façon de vivre en cohérence. Je déteste le mot en toute conscience, mais on pourrait le dire, quoi.
Dans cet ouvrage, dans
il y a la dame qui s'agite de vous dire un truc.
Ah, Alexandra Sweden, pardon.
Non, je voulais juste réagir à ce que vient dire Eric. Je pense aussi que ça demande une éducation sur un long terme. C'est-à-dire qu'on ne change pas des habitudes, des années d'habitudes. Et là, je pense au projet L'École Comestible, qui existe en France et qui est formidable. C'est une initiative qui permet en fait aux enfants de goûter des choses à l'école. Voilà, c'est des ateliers qu'on organise.
Ça existait en Belgique dans les années 90.
Voilà, et ils disent,
Et ça a disparu.
Oui, pour changer le monde, changer la manière dont on mange, mais il faut commencer le plus petit possible.
Ça, c'est certain.
Voilà.
Et alors, moi, j'entends souvent des gens qui me disent « on n'a pas le temps ». C'est tout le temps une question de priorité.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va choisir ? Et c'est là le dilemme. Et dans le spectacle, je joue beaucoup avec ça, en leur disant « ok, vous vous sentez obligé de conduire les gosses à la remédiation en français, en maths, en anglais, etc. etc. puis au catch dans la boue, puis au ping-pong, les œufs bandés, enfin, etc. » Parce qu'ils peuvent pas prendre les transports en commun, parce que c'est super dangereux les transports en commun. Apprenez-leur à marcher, ça fonctionne aussi.
Comme vient de le dire Alexandra, il faut tout déconstruire et c'est pas facile, c'est pas immédiat. Et je suis assez d'accord aussi avec elle, tout devrait se jouer à l'école. C'est peut-être lancer là un avis officiel à nos politiques, ministres de l'enseignement.
Marie-Arena avait lancé ça.
Et puis
Marie-Arena est passée à autre chose.
Oui.
Et on a arrêté le truc. Et c'était génial. On a envoyé des cuisiniers dans les écoles.
Mais c'est génial.
Mon frère l'a fait, je me souviens. On est allé au village, Grand Rieux, 552 habitants.
Ouais.
Plus de vaches que d'habitants. On leur a fait goûter du lait.
Oui.
Aux fils de fermiers. Ils préféraient le lait en tétrapac que le lait de vache.
Mais c'est ça.
Un sacré boulot. Hein.
On a perdu le goût.
Non, mais c'est essentiel. Ouais. Et c'est une question de respect de soi aussi. Parce qu'aujourd'hui, le rapport au corps, c'est vraiment ou physique, santé ou esthétique. Et effectivement, tout à coup, de se dire, le corps est aussi un là, c'est sacré, et comment je le nourris.
Moi, j'ai pas choisi l'esthétique, ça se voit, mais, mais je pense qu'effectivement, c'est fondamental. Mais je crois aussi, et je le crains, que ce soit une question d'âge. Plutôt, c'est plus important de faire des selfies comme ça devant le studio, etc. Mais ça, c'est fondamental que d'écouter l'émission. Tu vois? Ouais. Et c'est comme ça, c'est une réalité.
Et ça boit du soda sucré.
Et,
hein.
on est dans d'autres. Mais bon, il y a déjà deux livres, c'est déjà pas mal. C'est pas vraiment des livres, mais ça permet de caler la table de nuit. Donc je disais, il y a un côté. Il y a une réalité. Regarde, il y a plein de gens qui ne nous regardent pas, qui nous tournent carrément le dos. Et c'est génial, il n'y a que des jeunes. On a un public de jeunes, mais de dos.
Les jeunes, écoutez, retournez-vous.
Continuez à vous en foutre.
Non, mais cela dit, ce spectacle, ça va saigner, qui tourne un petit peu partout en Wallonie, parle aussi de ce qui nous intéresse beaucoup dans cette émission, c'est l'uniformisation du goût.
Oui.
L'agroalimentaire a tout lissé.
C'est terrible. Sans goût, sans odeur, sans consistance.
Mais c'est pas possible, ça.
C'est pas possible, mais c'est la réalité. Et je vais très loin là-dedans. Je pense, par exemple, les véganes. Sérieusement, j'ai du respect parce que je dis c'est courageux.
Oui, bien sûr.
Je me moque beaucoup, mais j'ai du respect. Ces pauvres gens sont utilisés par des multinationales de l'agroalimentaire. Quand on voit que derrière la promotion du véganisme, il y a Unilever, Danone, Nestlé, l'Union des banques suisses. Quand on fait un burger vegan, il y a 27 ingrédients dedans. Dans la nature, on met pas 27 ingrédients dans une préparation.
Ouais.
Dans du bœuf, il n'y a que du bœuf. Donc il y a un moment, il faut réfléchir à ce qu'on fait et pas être utilisé. Et être osé affronter quelque chose, c'est merveilleux. Mais alors, il fallait au bout des choses.
Mais vous venez de jeter un pavé dans la mare, là.
Pourquoi ?
Je sais pas, moi. Ce que vous me dites, c'est dingue. Combien de
27.
Grosses 27 derrière notre steak de soja.
Oui, bien sûr. Mais dans le soja, vous savez que ce qu'on raconte, le soja pour l'alimentation des bœufs, les bœufs, ils mangent des tourteaux de soja, c'est-à-dire un produit secondaire du soja, une fois qu'on a extrait, notamment l'huile, tout ce qu'on utilise pour l'alimentation humaine. On ne déforeste pas pour planter du soja pour nourrir les bœufs. Ouais. On déforeste, on déforeste plus en plus, mais on plante du soja pour nourrir les humains.
Ben oui.
Et avec le déchet, avec le second produit, on va nourrir les bœufs. Il faut remettre... enfin, on n'a jamais été autant informé qu'aujourd'hui, et on n'a jamais été aussi incapable de lire l'information qu'aujourd'hui.
Et c'est aussi le propos de ce spectacle, ça va saigner,
c'est
débusquer les fake
ouais.
news. Oui, mais je le confirme, mais par exemple, les 15 000 litres d'eau nécessaires pour élever un animal.
15 000 litres d'eau au kilo de bœuf, une vache, ça fait 620
mais
kilos.
Mais vous dites la méthode de calcul, elle est biaisée parce qu'elle prend, elle prend en compte l'eau que nourrit, effectivement. Qui est nécessaire au bœuf, l'eau grise pour des produits, etc.
Ouais.
Donc ça nous induit en erreur. Donc on serait en fait, en gros, très manipulé, si je comprends.
Ah mais alors, je ne suis pas du tout grand complot, machin, mais on est manipulé parce qu'on l'accepte.
Ouais.
À partir du moment où on ne se fait plus à bouffer,
ouais.
comment voulez-vous qu'on analyse une information? Et c'est là toute la problématique, en fait, c'est qu'il faut se repositionner au centre du débat en tant qu'humain. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très important de réfléchir à ce qu'on mange. Et les pommes de terre, on sait que c'est pas facile de faire des pommes de terre chez nous parce que c'est pas bien adapté comme culture. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir autrement, se dire, tiens, essayons de manger des pommes de terre locales, produites dans des conditions idéales, manger un peu moins, autrement. Quand je vois des gens qui bouffent des frites congelées, vous savez comment on fait les frites congelées, avec quoi elles sont enduites?
Vous allez me le dire.
Ah bah, on met une espèce de pâte dessus, faite d'amidon, avec de l'huile de palme, etc. Faire des frites, ça prend 3 minutes.
Ouais.
Je connais des gens qui font des frites à l'huile végétale. C'est dégueulasse, une frite à l'huile végétale. C'est pas fait pour.
Ah,
ça s'appelle
Eric,
pas une frite.
On changera pas, hein. Ça, y a rien à faire. Mais en tous les cas, je trouve que le propos du spectacle est vraiment génial parce que c'est apprendre en passant un bon moment avec vous. Il y a beaucoup d'humour, hein. C'est un petit peu sarcastique par moment. C'est du Rick Moshman, quoi.
Un peu ironique.
Et donc, ce spectacle, il va tourner encore.
Il va tourner tant qu'il
voilà.
vivra.
Mais c'est bien.
Moi, j'ai une théorie avec mes spectacles, c'est que tant que je gagne, je joue. Vous allez sur www.eric-boschman.be, vous avez toutes les dates, dès qu'elles sont ouvertes, dès qu'une billetterie en ligne par les organisateurs, vous avez
allez.
Le spectacle.
Et ça s'appelle Ça va saigner. On va s'octroyer une petite pause de quelques minutes et on vous retrouve après Michel Verlinden pour nous parler d'un phénomène dans les cuisines, c'est-à-dire
le comptoir.
Le fameux comptoir. On en parle juste après ceci.
11h midi.
Bientôt à table sur la première.
Avec Sophie Mounce. Testé et approuvé, les tables de Michel Verlinden.
Allez, un phénomène, hein, s'il en est, la prolifération des comptoirs dans nos lieux préférés du moment, les restaurants. Michel Verlinden, pour le Vif Week-end, vous avez enquêté sur ce phénomène qui n'est plus anecdotique.
Hein. Non. C'est vrai que je l'ai constaté dans un premier temps, en me disant, tiens, un comptoir ci, un comptoir là, un comptoir ouais. ailleurs et tout. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il y a eu un véritable événement quand j'ai vu que Christophe Hardiquès, donc le
ça
chef...
Ça, c'est mon chouchou.
Voilà, le chef étoilé, ouais. donc qui avait ce resto bonbon, qu'il a transformé ouais. en un vaste comptoir de 24 couverts. Je me suis dit, avec son nouveau restaurant qui s'appelle Mensa, désormais.
On est en région bruxelloise.
On est en région bruxelloise. Et je me suis dit, tiens, de quoi est-ce le signe? Ça raconte quelque chose. Parce que dans notre imaginaire, quoi, le comptoir, c'est un endroit convivial
ouais.
où on ne doit pas forcément réserver. Normalement, c'est ça, un comptoir. On ouais. débarque à la bonne franquette.
C'était le projet au départ du comptoir. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'était très égalitaire.
Égalitaire, absolument, ouais. facile d'accès, tout ça. Bon, ça existe encore. Hein,
oui.
Loin de dire que ça n'existe plus. Mais je me suis rendu compte qu'en parlant avec Christophe Hardiquès que il y avait une double raison pour laquelle il avait fait ce comptoir. La première, c'était que c'est quelqu'un qui a besoin d'être en connexion avec... c'est très personnel. Il avait besoin d'être en connexion, voir ses convives dans les yeux et tout ça. Je peux comprendre. C'est quelqu'un d'hypersensible, je pense. Et l'autre question est plus intéressante, enfin pas plus intéressante, mais est plus révélatrice. C'est que c'est parce que il voulait reprendre la main sur les questions économiques, sur les questions de ressources humaines.
C'est ça.
On sait que depuis la crise sanitaire, la question du personnel dans la restauration est une question épineuse, quoi.
Centrale, il y a d'ailleurs une fameuse carte blanche publiée par une centaine de restaurateurs cette semaine dans le vif
tout
expliquant
à fait.
La situation qui devient inextricable.
Voilà. Et donc, sa manière à lui, ça a été de créer ce comptoir sur le, qui nécessite moins de personnel, moins de complications. Ce qui est intéressant, c'est à voir aussi, c'est qu'il a dû, il me l'a dit en ces termes, imaginer de nouvelles scénographies de table.
Vous voyez qu'on est quand même aux confluences des arts. Hein,
alors,
il parlait
il parlait du Neifu, c'est une cérémonie qu'il a inventée pour nettoyer le couteau des convives. Donc je trouvais ça vraiment pas mal.
Ouais.
Mais je me suis rendu compte aussi, en sondant d'autres chefs, que ça pouvait aller beaucoup plus loin, cette affaire-là. Et notamment Filippo Lavecchia, qui a l'Osteria Romana aussi en région bruxelloise.
On va bouger.
Oui, je le promets. Ouais. Qui m'a dit que son rêve ultime, c'était d'avoir un comptoir où il serait tout seul. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu cette série Netflix qui s'appelle La Cantine de Minuit, c'est inspiré d'un manga. C'est vraiment un comptoir introspectif où les gens, en fin de soirée, viennent s'épandre. Et il m'a dit, voilà, je voudrais ça parce que entre le personnel. Je vois qu'Éric voudrait dire quelque chose.
Il y a un truc extraordinaire, c'est que ça, justement, on en parlait tout à l'heure, il n'y a plus de cantine de minuit.
Oui, ça disparaît.
C'est un truc
du paysage.
De dingue.
Oui.
Avant, les restaurateurs, quand on avait fini de bosser, on allait boire un verre.
À la cantine.
À l'époque, j'avais mon resto.
Exactement.
On allait au Mozart, au Cap, enfin, plein d'endroits, à Bruxelles, je parle.
C'était la soupape,
il
y quoi.
Il n'y a plus rien.
Ouais.
En fait, les mecs rentrent chez eux, font leur pétard ou leur ligne de côte devant leur PS4, et ils vivent tout seuls, quoi.
Nous, on partageait les tables avec les chauffeurs de taxi.
Bien sûr.
Oui,
et les prostituées qui venaient se réchauffer.
Oui.
Moi, je me souviens, il y a à côté de la place du Châtelain, il y en avait un comme ça. C'est fermé, fini. Je sais pas où vont les chauffeurs de taxi, ils vont chez Uber maintenant.
Un petit retour aux sources finalement pour le chef Filippo Lavecchia. Il rêve de ça,
mais son constat, c'est qu'il y a vraiment un divorce entre la cuisine et la salle, en fait.
Ouais.
C'est un peu regrettable et un peu inquiétant.
Voilà. C'est peut-être un constat d'échec aussi dans sa boîte, parce que le divorce entre la salle et la cuisine, il y a toujours eu les gens
des
en
tensions.
Salle sont des extravertis et les gars en cuisine sont des introvertis.
C'est vrai.
Eux parlent avec leurs mains et nous on parle avec nos bouches. Et ça a toujours été deux mondes, mais c'est deux mondes complémentaires.
Mm-hmm.
Si dans son cas il estime qu'il n'y a plus de contact, c'est qu'il a raté la gestion de son équipe. C'est totalement différent.
On ne fait pas ici le cas de Filippo, mais en tous les cas, c'est vrai ce que vous dites. Il y a eu souvent ces deux mondes, ces deux univers là qui cohabitaient comme ils ne pouvaient. Et voilà, effectivement, ça c'est intéressant dans l'idée de développer ces concepts de contact. Donc, moi, pour le coup, si on est sur Bruxelles, j'ai un gros crush pour Mensa et Christophe Hardiquet. Je pense que vous êtes aussi fan.
Complètement d'accord.
Alors, on va quand même donner quelques petits coups de cœur.
Vous avez testé, approuvé, dévoré. Un petit comptoir où j'ai appris d'ailleurs que le sieur Eric Boschmann s'était rendu il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Paulette à bicyclette. Et c'est exact.
J'ai mangé la semaine dernière.
Ah, voilà,
alors,
voilà.
On est à Ottigny-Louvain-la-Neuve.
À Ottigny, très sympa.
Ouais.
Un tiers-lieu, une grande ferme. Et là, sur la droite, il y a un petit resto. C'est très intriguant.
Je tiens à préciser que c'est un tiers-lieu oublié dans la distribution d'argent magique de la ministre Tellier récemment.
Ah, voilà.
Et c'est vraiment génial comme truc. C'est une ferme, c'est une initiative privée.
Oui,
absolument. Et c'est une fondation qui est derrière. Il y a des gens très très bien dedans. Et c'est assez génial. Il y a une boulangerie, il y a plein de choses. Et Paulette à bicyclette.
Et il y a ce resto qui est
extraordinaire.
Qui est couplé avec un repair shop de vélo. C'est drôle, c'est complètement.
C'est un truc de dingue. Oui.
Et on y mange délicieusement bien, un comptoir. Et Prague, qui est la jeune femme qui a des origines. Des origines indiennes, pardon.
Ouais.
Et elle cuisine aussi bien un chicon, des boulets, des choses comme ça.
Il y a des petites inspirations des origines.
Elle fait aussi un tikka masala et tout. Ah, donc ça va dans tous les sens. C'est vraiment un très très chouette endroit.
On est chez Paulette
à
bicyclette qui seront parmi nous d'ailleurs dans quelques semaines pour nous parler de ce projet qui est aussi
une belle histoire. Oui,
absolument. Une belle histoire personnelle. Paulette à bicyclette et son comptoir, c'est validé. À Thouin, il y a Bagou aussi.
Oui, Bagou. Alors je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment mon coup de cœur parce que c'est un comptoir très intime. optimiste. On met 3 personnes, 4 max.
Ouais.
Et on est vraiment, on a le nez dans les assiettes de Steven Mirelli, qui est vraiment un chef intéressant. Vraiment, au croisement.
France-Italie.
Voilà, ouais. Au croisement France-Italie, c'est vraiment un très très bon plan. Voilà.
Ok, donc ce comptoir-là, il est à Thouin.
Oui.
Et ça s'appelle Bagou. Et puis on termine avec Coin-Coin.
Coin-Coin, un autre coin, oui.
Ouais.
Alors ça, c'est une sorte de resto qui aurait plu à Claude Sauté, mais en version contemporaine. C'est vraiment un resto italien, mais sans l'éthique, sans la carte postale.
Ouais.
Alors, vous saviez aujourd'hui que c'était le jour de la carbonara?
Ah bah évidemment, attendez, j'ai posté...
Avec lardon ou sans lardon?
Guanciale.
J'avais anticipé le truc, on a posté donc sur le site lapremiere.be la recette originale de la carbonara. Déferlement.
Ah.
La guerre civile a démarré. Ah, je vous jure.
Donc... Pour faire du clic, il suffit de poster une recette populaire.
Oui.
Que chacun a sa version.
Exactement.
Est-ce que Carlo est en PLS à propos de la... On veut savoir, parce que c'est quand même lui l'empereur de la carbonara.
Au moins.
Il détient la vérité absolue.
Donc en ce jour mondial de la carbonara, je vous invite à regarder cette recette.
Et voilà, et moi je vous dis que Coin Coin est un très très chouette endroit, un très beau comptoir où la carbonara, vraiment, on n'a pas du tout à rejoindre. Elle est vraiment intéressante.
Coin
Coin, c'est à Oulu et Saint-Pierre.
On va manger
à
après chez Coin Coin. Je vous invite pour une carbonara d'anthologie alors. Allez. Allez,
on y va.
C'est bon,
on vous suit.
Je sens votre enthousiasme.
Oui, Sophie, on vient.
Moi, je vais essayer de la crème, du persil bleu.
Donc, Coin Coin, c'est le troisième coup de cœur comptoir. Oh, il nous reste 2 minutes. Alexandra, une adresse avec un comptoir que vous adorez. Ça peut être n'importe où en Belgique.
Oula.
Rapidement.
Alors,
on va demander à Eric. Le temps
Bar du matin. Bar du matin.
Le bar du matin.
Ah,
Saint-Gilles.
J'ai un beau comptoir.
On est où?
Ouais.
On est où?
On est à Saint-Gilles. Okay. Cœur de Saint-Gilles à Albert.
Ok, Eric Boschmann,
moi,
en 30 secondes.
Eric va nous emmener en Évoisonie.
Non, j'ai aucune idée. Si, Char, à Bastogne, chez mon camarade qui passait sur la Viva là, il n'y a pas longtemps, mon camarade La Praille. Et Julien est un type incroyable, d'une générosité incroyable, et Char est un lieu qui mérite d'être visité.
Et ça s'appelle... Donc c'est
Char. Ça veut dire de la viande.
Char, et on
ne fait pas que de la viande. À Bastogne, sur la place. Sur la place Macolif.
Ben voilà.
On y va.
Quand je vous disais que la Wallonie existait.
Mais oui.
Sinon, si vous passez en Flandre, il y a Misera qui est magnifique. Ah. Vous connaissez Eric?
Pas encore.
Déjà Misera, ça ne donne pas envie d'y aller.
Nicolas Misera, c'est plutôt Misera, je pense qu'on prononce Nicolas Misera. Mais il n'y a qu'un S. C'est à Anvers et c'est absolument magnifique. Il travaille avec son épouse. Et puis il y a Christophe Hardiques pour Bruxelles.
Encore
on est
toujours.
Dans le fine dining. Hein, la fine dining, c'est
quoi? Oui, là, c'est une expérience.
Mais c'est une très belle expérience. Ouais. C'est un décor absolument sublime. Voilà, les amis, on va mettre tout ça sur le site lapremiere.be. Toutes les informations et vos coups de cœur, Michel. La semaine prochaine, retour au Bercail, à Reyers, et nous aurons l'occasion de parler de Jim Harrison, ce géant de la littérature américaine.
Son livre sur la bouffe est
exactement. Et il nous sera conté par la vigneronne que vous connaissez, Chris Campadieu, qui est devenue presque son intime, un peu sa fille.
Christine Campadieu.
Voilà. Elle nous parlera de ce géant de la littérature. Ça nous laisse une semaine pour lire ses ouvrages magnifiques. Voilà les amis, la Foire du Livre, c'est toute la journée et demain, venez-y nombreux. Et voilà, on y sera là pour se faire juste du bien au moral. Merci beaucoup les amis et merci beaucoup
Sophie.
À toute l'équipe technique en direct depuis la Foire du Livre.
Retrouvez Bientôt à Table en podcast sur ovio.be. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits sur RTBF Ovio.